sur l'état de nos routes. Vous allez voir, c'est pas brillant. On va en parler dans le pressing, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour, après les infos. Bienvenue à tous sur Europe 1. Bon réveil. Europe 1, il est 6h.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Nos enfants passent trop de temps sur leurs écrans. Dans un rapport remis aujourd'hui au gouvernement, un collège d'experts recommande d'interdire ces écrans avant l'âge de 3 ans et les smartphones avant 11 ans. Reportage Europe 1 en début de journal. À Châteauroux, le meurtrier présumé de Mathis, 15 ans, mis en examen et placé en détention provisoire. Sa mère, elle aussi mise en examen pour violence volontaire. Une marche blanche en mémoire de la victime est prévue samedi. Et puis les électeurs de droite vont être fixés dans la journée. Les Républicains doivent publier la liste de leurs candidats aux européennes. Nadine Morano, Brice Hortefeux seront-ils, oui ou non, candidats à leur succession? Élément de réponse dans un instant. Le journal de 6 heures, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vos enfants ont-ils les yeux rivés sur leurs écrans du matin au soir? Eh bien, les scientifiques sont catégoriques, c'est dangereux pour eux. Mandatés par le président de la République, ils rendent aujourd'hui leur rapport sur les risques liés à l'exposition aux écrans et leurs recommandations, interdire les écrans avant 3 ans et les smartphones avant 11 ans. Mais c'est parfois du mimétisme, car nous aussi, les grands, nous passons beaucoup de temps sur nos smartphones. C'est ce que constate Gilles Vernet, professeur et documentariste que Louise Salé a rencontré avec sa classe de CM2 dans le 19e arrondissement de Paris. Reportage.
Alors, levez le doigt, ceux qui ont leur smartphone. 1, 2, 3...
Monsieur Vernet fait 4. Le décompte. Un tiers de la classe en possède un, la moitié à une console. Et à 10 ans, ils sont bien conscients déjà du risque d'addiction.
Un jour, pendant les vacances, j'avais pris le téléphone à 8h. Je ne l'avais pas quitté. Le soir, j'ai regardé 2 films d'affilée. J'avais hyper mal aux yeux et à la tête. Je n'arrivais pas à dormir.
Ça détruit le cerveau. Carrément, t'oublies tout ce que tu fais. T'es comme dans une bulle.
Et par exemple, si tu regardes une petite vidéo, une fois que tu l'as terminée, ça te propose plein d'autres vidéos pareilles.
Et ça, ça vous enferme.
Et quand toute la famille s'y met, les relations en pâtissent.
Ma mère et mon père, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ils s'en fichent que moi et mes frères et sœurs, on regarde notre téléphone jusqu'à l'infini. Ils vont rien dire.
Et si on se parle plus, et si on s'ignore, et si on est des murs, bah je sais pas où est-ce qu'elle est l'affection. Hein. Qu'est-ce qu'on perd?
Tu perds des relations sociales avec eux, t'échanges moins avec eux, t'apprends moins bien à les connaître.
Très vrai.
Monsieur Vernet insiste par exemple sur le plaisir de jouer en famille ou de lire pour combattre l'ennui.
Louise Salé pour Europe 1. Autre problématique urgente à régler pour protéger les enfants et adolescents, les violences des mineurs qui se multiplient. Gabriel Attal, le Premier ministre, continue de chercher des solutions après avoir reçu hier à Matignon la France Insoumise et les partis de la majorité.
Des consultations 48 heures après la mort de Mathis, 15 ans, poignardé à Châteauroux samedi soir.
Son agresseur, du même âge et de nationalité afghane, en situation régulière, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire hier. Sa mère, elle aussi, est mise en examen pour violence volontaire. Elle est accusée d'avoir donné plusieurs gifles à la victime.
Europe 1, 6h03, on revient à présent sur cette flambée de violence qui a marqué la petite ville de Givors au sud de Lyon ce week-end. Là aussi, des jeunes sont impliqués. 5 mineurs ont été interpellés après l'incendie de plusieurs voitures de la police municipale.
Et le maire d'hiver gauche de la ville fait volte-face et demande désormais à ce que sa police municipale soit armée. Un maire déterminé à ne pas laisser s'installer l'insécurité et l'impunité dans sa ville. Reportage du correspondant d'Europe 1 sur place, Jean-Luc Boujon.
Voilà plusieurs mois que la tension est montée d'un cran à Givors jusqu'à l'action de samedi soir. Une trentaine de jeunes qui brûlent deux voitures de la police municipale garées dans l'enceinte de la mairie. Des jeunes qui voulaient, semble-t-il, se venger de l'arrestation de plusieurs de leurs camarades quelques heures plus tôt, explique cet habitant.
Il n'y a rien qui justifie les incendies des véhicules municipaux, sauf que s'il y a eu des rixes, ce n'est pas dû à une simple interpellation des jeunes, mais plutôt qu'il y a eu de la part des forces de l'ordre, et c'est dommage, des jets lacrymogènes sur des mamans, des enfants et des personnes âgées, sans faire de distinction. Quand on fait une interpellation, on fait partie des forces de l'ordre, il faut faire attention à ses habitants.
Je ne laisserai pas la terreur s'installer, répond le maire d'hiver gauche, Mohamed Boudjelaba, qui souhaite désormais armer ses policiers municipaux.
Je suis un maire en colère qui dit stop, on arrête, nous gênons beaucoup de monde et nous allons continuer à les gêner, nous ne lâchons rien.
Un climat dénoncé par beaucoup d'habitants.
Les jeunes, ils font n'importe quoi, je vois, ça craint plus. C'est pas très bien fréquenté.
Et vous songez à déménager?
Ah bah nous on a vendu notre maison donc on va partir, ouais.
Une réaction qui est loin d'être un cas isolé. Givors, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La région Île-de-France coupe les vivres à Sciences Po Paris, décision qui fait suite à la manifestation pro-palestinienne vendredi dernier. 1 million d'euros de subventions mises en suspens.
Et hier, c'est à la Sorbonne que des étudiants ont tenté de planter des tentes pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza.
Très vite délogés par la police, ils se sont déplacés un peu plus loin dans le quartier, soutenus par plusieurs élus insoumis. Et justement aujourd'hui, Mathilde Panot et Rima Hassan sont convoqués devant la justice pour répondre à des accusations d'apologie du terrorisme.
6h05 sur Europe 1. Qui va accompagner François-Xavier Bellamy, Céline Imar, Christophe Gomard? La liste complète des Républicains pour les élections européennes, c'est pour aujourd'hui.
Et hier, les cadres du parti se sont réunis. Arbitrage entre poids lourd historique et nouvelle tête. Toutes les hypothèses restent sur la table ce matin, Alexandre Chauveau.
Parmi les discussions hier soir, deux cas ont surtout fait débat, Nadine Morano et Brice Hortefeux, deux sarkozystes historiques. Ils ont pour eux l'expérience de ministre, importante pour un parti qui aspire à regouverner et un ancrage local solide, en Lorraine pour Nadine Morano, en Auvergne pour Brice Hortefeux. Tous deux ont l'appui de cadres du parti, Laurent Wauquiez notamment, mais leur présence serait pour plusieurs élus le symbole d'une époque révolue pour la droite. Beaucoup plaident ainsi pour faire émerger de nouveaux visages. L'incertitude plane encore sur leur sort ce matin. Il faut dire que le parti a longtemps retardé l'échéance. Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy souhaitant s'éviter autant que possible d'avoir à composer avec la rancune des absents. C'est un exercice désagréable pour tous les chefs de parti, reconnaît un candidat en balance. Il y a une indécision sur l'ensemble de la liste, résumait de son côté un salarié des Républicains hier soir, suspendu comme beaucoup à la décision de la Commission nationale d'investiture du parti, attendue dans la matinée.
Alexandre Chauveau.
Le bout du tunnel, ce n'est pas pour tout de suite sur l'autoroute A13, puisque la 13 reste fermée.
Réouverture repoussée au moins au 11 mai dans le sens province-Paris. Dans l'autre sens, pas encore de date définie. Les fissures découvertes sur la chaussée sont plus importantes qu'estimées et causées, selon le Canard enchaîné, par la construction d'un parking en bordure d'autoroute.
Une nouvelle série à découvrir sur Netflix. Nina, elle sort aujourd'hui, ça s'appelle Fiasco.
Présentée par Igor Gottesman, elle met en scène son ami dans la vraie vie, l'acteur Pierre Ninet. Marie Jiquel, c'est un feuilleton humoristique qui raconte un tournage de film assez chaotique.
Action !
Rien ne va plus sur le tournage du film Rêvé de Raphaël, réalisateur amateur interprété par Pierre Ninet. La maquilleuse se dispute avec l'actrice principale, les décors s'effondrent, le producteur quitte le navire et même les cascadeurs se blessent.
Si je me loupe, j'aurai pas d'autre chance, c'est comme mon premier et mon dernier film.
Ça va le faire là, faut que tu te reboostes. Hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme.
Hein ? Pourquoi, qui dit ça ?
Pierre Ninet.
Il a aucun code du show business, aucun code du cinéma, aucune facilité pour diriger une équipe et pourtant il va se lancer dans réaliser un gros film et il va lui arriver que des emmerdes.
C'est Raphaël qui dit coupé !
Non mais c'est son pied qui est coupé !
Oh là, alors oui, coupé ! Magali, c'est le pied qui est coupé !
Un tournage chaotique qui nous emmène dans les coulisses fantasmées du 7e art.
Sur les tournages, parfois ça se passe pas bien, on s'entend pas bien. Parfois, on n'est pas content de la scène qu'on vient de faire, on se maudit dans sa chambre d'hôtel et voire pendant des mois et des mois. Et parfois, on s'entend pas bien avec les réalisateurs, ça peut arriver.
Une réalisation originale, un scénario loufoque porté par un casting survolté. Ce joyeux bazar qu'est Fiasco s'annonce déjà comme un succès.
Marie Jiquel pour Europe 1.
Allez, un mot de sport à 6h08 sur Europe 1 pour terminer. Nous allons au large avec déjà 3 abandons, Nina, sur la Transat anglaise partie dimanche.
Cette course mythique en Atlantique Nord pour rejoindre l'Amérique en solo, plusieurs avaries et quelques soucis de santé qui ont poussé les skippers Jérémy Bayou, Arnaud Boissière et Sébastien Marseille à rebrousser chemin. Pour l'instant, c'est Charlie Dalin qui mène en tête sur son Imoca, arrivé prévu le 6 mai.
Merci Nina Pavant. Bon réveil sur Europe 1, 6h08. Autre rendez-vous avec l'actualité. Europe 1, 13h, c'est du lundi au vendredi. De 13h donc à 14h avec Céline Géraud et la rédaction d'Europe 1. C'est le tour complet de l'actualité à la mi-journée avec vos témoignages, chers auditeurs, à l'antenne. Vous appelez pour participer en laissant vos coordonnées au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé.
On se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 avec le pressing, les articles à ne pas rater dans la presse ce matin et notamment le déclin du nombre d'ouvriers en France.
À tout de suite sur Europe 1.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour.
Retrouvez du lundi au vendredi à 6h40 sur Europe 1, l'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
À tous ceux qui appellent un étendoir, un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, des 20 euros jusqu'à 30 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Europe 1, bonjour. 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue à tous sur Europe 1, mardi 30 avril. Il est 6h10 et c'est votre pressing, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour, avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui vous a attiré le regard dans la presse ce matin ?
Nid de poule, pont vétuste, oui, le réseau routier français se fissure.
Omblin.
Le chef-d'œuvre La liberté guidant le peuple de Delacroix retrouve ses couleurs.
Autre information marquante ce matin dans les journaux, de moins en moins d'ouvriers en France, une diminution inéluctable. Le chiffre à l'appui, assez impressionnant ce matin dans le Figaro. Je vais vous détailler ça dans un instant. Dimitri, on parle donc avec vous ce matin du mauvais état de nos routes.
Oui, nid de poule par-ci, marquage au sol à peine visible par-là. Les routes de France sont en mauvais état et ça ne s'améliore pas. C'est le quotidien Aujourd'hui en France qui nous en parle ce matin en relayant dans ce sens plusieurs rapports publiés ces dernières années ainsi que des témoignages.
Il y a donc des statistiques, Dimitri, qui montrent que nos routes sont dégradées.
Oui, plusieurs, mais il y en a une qui est assez parlante en lisant cet article. C'est le classement mondial de l'état des infrastructures routières dressé par le World Economic Forum. Un classement que la France dominait en 2012, mais ça c'était avant. Car en 2019, soit 7 ans après, nous avons chuté à la 18e place. C'est dire la dégradation de nos routes, de la dégradation rapide de nos routes.
C'est pas brillant, effectivement. Quelle est l'explication ?
Un manque d'investissement, c'est la raison principale. Par exemple, en 2022, seulement 9 milliards d'euros ont été investis dans les voiries par les administrations publiques, soit 20% de moins qu'en 2013, alors que nos routes se sont dégradées. Ce n'est pas logique et ça vous montre bien le faible investissement dans le réseau routier qui est en réalité devenu une variable d'ajustement du budget des collectivités locales, car cet entretien, il coûte cher, très très cher, en moyenne 120 000 euros par kilomètre. Ça fait beaucoup, beaucoup pour les communes qui font donc l'impasse parfois sur cet investissement. Et ce n'est pas sans conséquence, ce déficit d'entretien des routes, ça a un impact extrêmement important sur la sécurité des conducteurs. Selon l'Observatoire national de la route, dans 30% des accidents mortels, le facteur infrastructure est en cause.
Bon, c'est 120 000 euros par kilomètre et par an, j'imagine.
Ça fait beaucoup, sachant qu'il y a 1 million de kilomètres en France en route.
Donc on sort sa calculette on a la réponse à la question.
Exactement.
Dangereux pour les automobilistes, dangereux pour les deux roues.
Aussi, bien évidemment.
C'est terrible, il y a des nids de poules, parfois je me dis, ils peuvent caler leurs roues dans le trou.
Les nids de poules, c'est un vrai problème de sécurité routière. Vous savez que la réindustrialisation du pays est l'un des chantiers, en tout cas l'une des promesses d'Emmanuel Macron. On en parle régulièrement sur Europe 1. Eh bien, il se trouve, je vous le disais il y a un instant, le Figaro nous parle ce matin de l'irrémédiable déclin du nombre d'ouvriers en France. Il y a 40 ans, les ouvriers, c'était quasiment un actif sur trois.
Oui.
Aujourd'hui, moins d'un sur cinq.
Vous
voyez la différence ?
Un sur trois, on est passé à un sur cinq, c'est vraiment une dégringolade.
Mais oui, sur fond de désindustrialisation, donc. La chute de l'industrie manufacturière y est pour beaucoup. Vous parlez de dégringolade, Omblin.
Oui.
Au début des années 80, on était encore, l'industrie manufacturière représentait encore pas loin de 20% du PIB. Donc elle pesait pour 20% de la création de richesse en France. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Vous voyez, on a divisé par deux. Il y a autre chose qui me frappe dans le Figaro quand même. En 2020, alors on était pendant le Covid, la part des cadres en France à partir de 2020 est devenue plus importante que celle des ouvriers. Vous imaginez ?
Vous voulez dire qu'il y a aujourd'hui en France plus de cadres que d'ouvriers ?
Exactement. Davantage de profils diplômés, ça c'est une tendance lourde. De moins en moins de travailleurs dans les usines, c'en est une autre. Alors le gouvernement a bien un plan pour arrêter ça. Ça s'appelle France 2030. Beaucoup de milliards injectés. Le gouvernement revendique 90 000 emplois industriels créés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. 90 000, c'est à rapporter quand même aux 2,5 millions d'emplois détruits dans le secteur depuis les années 70. Vous voyez la courbe, et d'ailleurs vous voyez les graphiques ce matin dans le Figaro, c'est une tendance lourde. La France ne redeviendra plus un pays d'ouvriers.
C'est irrémédiable, quoi.
C'est
a priori,
on n'a pas changé.
Vous n'avez pas de boule de cristal, mais d'accord.
On remettra des usines, mais on ne reviendra pas à la part d'ouvriers qu'on a connue il y a une vingtaine ou une trentaine d'années même.
D'accord.
Omblin.
Oui, il n'y a pas que la Joconde au musée du Louvre.
Vous avez
envie
de
remarquer.
Voilà.
Il y a aussi la liberté guidant le peuple. Plus depuis 6 mois, car le chef-d'œuvre de Jeanne Delacroix se refaisait une petite beauté. 6 mois d'une restauration impressionnante, explique Le Parisien. Le tableau
pour rappel, puisque vous l'avez en tête, représente l'émeute révolutionnaire du 28 juillet 1830 et non la révolution de 1789.
Vous avez raison,
il faut le rappeler.
On fait souvent la confusion. Vous avez raison de le rappeler.
Oui, l'émeute de 1830. Eugène Delacroix, 32 ans à cette époque, fils d'un ministre de la Première République, peint ce tableau juste après l'événement et avec une rapidité d'exécution qui étonne beaucoup les deux restauratrices chargées de révéler à nouveau ses couleurs passées. Symbole des révolutions, ce tableau, la liberté guidant le peuple, de l'insurrection, des barricades.
C'est devenu un emblème,
voilà,
bien sûr.
Absolument, on voit cette femme qui incarne la liberté brandissant un drapeau bleu, blanc, rouge avec Notre-Dame de Paris dans le fond. Le tableau de Delacroix est l'un des joyaux les plus précieux de notre pays. Il a donc eu droit aux techniques de restauration les plus modernes, de la radiographie, de la réflectographie.
Réflectographie,
oui. Dévoile les secrets de l'œuvre encore.
Des secrets, donc on découvre encore aujourd'hui des détails méconnus du tableau.
Et oui, par exemple, la prochaine fois que vous irez au Louvre, Dimitri, vous verrez, il y a une chaussure qui est apparue au premier plan. Elle était enfouie sous des couches de vernis.
Ah, c'est les soucoupes
du quotidien, exactement. On ne voyait pas non plus la couleur du sang qui coule des oreilles. Bien maintenant, désormais, ce rouge est net. On croyait que la robe de la liberté de cette femme était uniformément jaune. En fait, elle est grise.
Bah, dites-moi, on va le redécouvrir entièrement.
C'est exactement le cas. C'est exactement ça. Et puis, on imagine la fascination des restauratrices quand elles ont découvert sous les couches de peinture des corrections de l'artiste, ses hésitations. La première version de l'héroïne regardait un personnage à terre et finalement, attention, elle regarde au loin. Et rien que ça, ça veut dire beaucoup. En plus,
ça change pas mal de choses, sur la signification.
Voilà. Et puis, il y a la poussière aussi des barricades qui est franchement plus nette. La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix retrouve sa place au musée du Louvre après 6 mois de restauration. Une restauration donc impressionnante.
Ah oui, on va le redécouvrir, ce tableau.
Exactement.
Bon, autrement dit, c'est une invitation à aller ou à retourner au Louvre.
Vous avez compris ?
Ça tombe bien, il pleut toute la journée en ce moment. C'est le parfait moment pour aller au Louvre. Merci, Omblin Roche. Merci, Dimitri Vernet. C'était votre pressing, chers auditeurs, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Dans un instant sur Europe 1, la partition de la légende du blues Muddy Waters, mais d'abord le journal permanent à 16h16, Nina Pavan.
Le meurtrier présumé de Matisse, 15 ans, mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir donné plusieurs coups de couteau, dont un au cœur à la victime samedi soir à Châteauroux. La mère de l'agresseur également mise en examen pour violence volontaire, elle aurait donné des gifles à Matisse. Une marche blanche est prévue samedi. La région Île-de-France coupe les vivres à Sciences Po Paris. Décision suite à la manifestation pro-palestinienne vendredi dernier et la décision de la direction d'abandonner les poursuites. 1 million d'euros de subventions mises en suspens. Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle, annonce du parquet de Paris hier, après l'audition de l'acteur concernant 2 plaintes pour agression sur des tournages en 2014 et 2021. Carton plein pour le plan épargne retraite, 10 millions de titulaires, 100 milliards d'euros épargnés sur les PER, des chiffres dépassant les attentes, s'est félicité le ministre de l'Économie.
Merci Nina Pavan. Les infos de 6h30 dans un peu plus de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Mais d'abord à 6h17, votre partition, Omblin Roche. On le surnomme le père du blues de Chicago. Vous nous retracez ce matin l'histoire du guitariste Muddy Waters, disparu il y a exactement 41 ans.
Oui, il fut l'un des premiers musiciens de blues à utiliser une guitare électrique pour donner au genre un son plus puissant, un son plus urbain. Jusqu'à la fin de sa vie, Muddy Waters est resté l'emblème de toute une génération de musiciens. Alexandre, pourquoi les Rolling Stones ? Pourquoi Eric Clapton ? Pourquoi Bob Dylan ? Pourquoi Jimi Hendrix ?
Parce que Muddy Waters, voilà. Ben oui. L'histoire de Muddy Waters, c'est un peu celle de l'Amérique noire, hein, celle du milieu du XXe siècle.
Oui, et elle commence forcément dans le sud, hein, Rolling Fork, ses maisons en bois, ses châteaux d'eau, ses champs en plein cœur de l'état du Mississippi. Orphelin dès l'âge de 3 ans, McKinley Morganfield, qui prendra le nom de Muddy Waters, oboueuse.
Les oboueuses,
voilà,
oui.
Muddy Waters est élevé par sa grand-mère. Très tôt, il joue de l'accordéon, de l'harmonica, de la guimbarde, avant de découvrir la guitare.
Comment il arrive à se faire repérer au milieu de nulle part, en fait?
Eh bien, grâce à Alan Lomax. Dès les années 30, Alan Lomax, le musicologue très célèbre, parcourt le vieux Sud pour enregistrer une partie de la mémoire musicale de l'Amérique. Vous savez, un patrimoine de blues, des voix qui s'élèvent depuis les chants de coton, des complaintes de prisonniers, des vieux gospels. Il a gravé tous ces chants, toutes ces voix sur bande pendant plusieurs dizaines d'années. Oui. Et bien, ce Alan Lomax se présente un jour dans la ferme de Muddy Waters. Il descend alors de son tracteur Il pense avoir affaire à un policier à cause de sa production clandestine de whisky. À son grand étonnement, voilà, le musicologue souhaite graver sur bande sa voix et le son de sa guitare. Plusieurs sessions ont lieu à la Library of Congress à Washington en 1941 et 1942. Dans la foulée, Muddy Waters décide de rejoindre le Nord, Chicago, pour essayer de vivre de sa musique.
Well, you know, I just can't be satisfied. I just can't keep from crying.
Bon, on apprend donc au passage que Muddy Waters avait une production clandestine de whisky. Si on parle du guitariste Muddy Waters, à quoi ressemblent les débuts, Amblin?
Bon, alors c'est plutôt chaotique, hein, entre son travail à l'usine et quelques cachets reçus grâce aux rares clubs de Chicago qui acceptent de le faire jouer. En fait, ce qu'il faut savoir, Alexandre, c'est que dans les années 40, Chicago, comme Détroit, comme d'autres villes du Nord, prennent des airs de terre promise pour des Afro-Américains du Sud, désireux de sortir de la misère, un exode de milliers de personnes à la recherche d'un emploi, d'un meilleur niveau de vie et qui fuient les États ségrégués rongés par un racisme endémique. Et à cette époque, on est en pleine effervescence du jazz. Alors le blues n'intéresse pas vraiment les patrons de bar et les maisons de disques.
Alors comment il va arriver à se démarquer, Muddy Waters?
Eh bien, en branchant sa guitare, voilà, il mise sur un blues électrique et ça marche. Né avec Muddy Waters, ce qu'on appelle aujourd'hui le son blues de Chicago.
Alors il y a toutes ces nuits entières passées à jouer en public et puis Muddy Waters va se mettre à enregistrer, hein. Les premiers enregistrements arrivent.
Absolument, pour le compte d'un label qui vient de voir le jour, Chess Records, dirigé par deux frères immigrés polonais, Leonard et Phil Chess. Vous savez, ça ressemble à la bonne rencontre au bon moment des destins liés. Chess Records et Muddy Waters vont grandir ensemble. En à peine quelques années, Chess devient l'un des labels les plus importants de l'histoire du blues et le guitariste son plus fier représentant.
Et puis arrive la fin des années 50 et là, c'est le rock'n'roll qui devient la musique à la mode.
Oui, c'est vrai, mais le blues et Muddy Waters en particulier peuvent compter sur une nouvelle génération de musiciens anglais. La bande de Mick Jagger va jusqu'à choisir son nom de groupe Rolling Stones, comprenez Vagabond, d'après un succès de Muddy Waters. Et s'il y a bien un riff de guitare entré dans l'histoire de la musique populaire, écoutez bien, c'est celui-ci, Manish Boy, sur Europe 1, l'un des morceaux les plus célèbres du père du blues électrique.
Greatest man alive, but now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I. I'm a natural born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Boy.
Stone. I'm a Hoochie Coochie man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. Second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a mean, that mean manish boy. Man, I'm a rolling stone. Coochie man. Well, 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 well. Hurry. Hurry.
1955, Manish Boy par le guitariste de blues légendaire Muddy Waters dans la partition sur Europe 1. Muddy Waters disparu il y a 41 ans, le 30 avril 1983.
Voilà, le père des cinq notes les plus célèbres, en tout cas les plus entêtantes du blues, Muddy Waters, ce matin sur Europe 1.
C'est une reprise d'un autre bluesman.
C'est une reprise d'un autre bluesman,
mais qu'il a adapté.
Mais qu'il a réadapté et avec quel brio. Merci, Omblin Roche. Très bon début de matinée. Nous sommes le mardi 30 avril sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, 5h-7h.
Dans la prochaine demi-heure, Omblin.
La revue de presse internationale, Alexandre, on va retrouver les correspondants d'Europe 1.
Nous serons aux États-Unis. La presse américaine attend la réponse de la Cour suprême à cette question. Les villes peuvent-elles punir les SDF pour le simple fait de dormir dans la rue ? Une ville de l'Oregon a interdit aux sans-abri de dormir justement dans un parc. À 7h moins le quart, Jean Z nous rejoint avec une nouvelle initiative positive.
Oui, avec la première usine au monde à recycler les barquettes alimentaires en plastique, et cette usine, elle est en Meurthe-et-Moselle. Dans 10 minutes, votre interview éco, Alexandre Lemaire.
On va parler de l'éclatant succès du PER. Mais oui, vous savez, le plan épargne-retraite. Plus de 10 millions de Français en maintenant le leur. C'est une formule qui vous séduit, mais qui trahit sans doute aussi l'angoisse d'avoir un jour des pensions de retraite au rabais avec le seul système par répartition. Avantages et inconvénients du PER, on va en parler à 7h-20 sur Europe 1 avec Ludovic Erschlikowitz du portail retraite.com. Dans un instant, la météo d'Anissa Dadi.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui ? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Retrouvez tout à l'heure à 6h50 la revue de presse internationale avec Valtus, leader européen du management de transition. Valtus, c'est déjà plus de 3500 missions management de transition réalisées dans 50 pays. Europe 1.
6h28, le temps pour ce mardi, Anissa Dadi. Des averses, des orages et quand même quelques éclaircies au programme.
Voilà, ça c'est le menu de ce dernier jour du mois d'avril. On commence par quoi ? Allez, je vous laisse choisir, Alexandre.
Allez, commencez par les bonnes nouvelles, s'il vous plaît.
Les éclaircies ? Bon, ce matin, nous avons des éclaircies entre la Basse-Normandie et les Pyrénées-Atlantiques. Hein, le long de la façade atlantique, là, c'est plutôt très agréable. Ça reste couvert encore sur le Finistère avec des pluies soutenues dans la matinée. D'autres éclaircies à l'opposé du pays, entre l'Alsace et les Alpes, avec de la neige sur les Alpes à partir de 2100 mètres. Pardon. Et entre ces deux zones d'éclaircies, alors là, on a une bande pluvieuse qui va des Hauts-de-France jusqu'au Languedoc-Roussillon, en passant par la région parisienne, le Loiret, le Nivernais, l'Auvergne, le Bourbonnais, le Limousin. Voilà, toutes ces régions sont concernées par ces averses fréquentes ce matin et ce ciel très couvert. Attention, des pluies très soutenues sur les Cévennes. Ça fait plusieurs jours qu'on a un épisode pluvieux assez important. Oui. Ouais, sur les Cévennes, effectivement, avec des orages cet après-midi. Ça va se gâter
à l'est. Je vous annonçais des éclaircies pour ce matin et au fil des heures, vous allez voir qu'on a des orages qui éclatent de la Bourgogne jusqu'au Lyonnais. Des orages qui peuvent être localement forts, ça arrive, vous le savez, si vous nous écoutez du côté du Val-de-Saône, on sait que les orages peuvent être forts et accompagnés de grêle. Donc prudence cet après-midi. Les températures 13 à Quimper et Brest, 16 degrés à Montpellier, ça a bien baissé dans le sud, hein. 18 à Nîmes, 20 à Paris et 25 la maximale pour Strasbourg.
Merci Anissa Haddadi. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1, il est 6h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Les écrans dans le viseur du gouvernement. Le rapport sur leur influence sur les enfants commandé par Emmanuel Macron est publié aujourd'hui. Il préconise d'éviter de donner un smartphone trop tôt à votre adolescent, un engagement que certains parents ont déjà pris. Vous allez l'entendre, reportage à suivre. Les financements de la région Île-de-France à Sciences Po Paris suspendus tant que la sécurité et la sérénité ne seront pas garanties dans cette grande école. C'est une annonce de Valérie Pécresse après les blocages menés par des manifestants pro-palestiniens la semaine dernière. Que s'est-il passé à Châteauroux dimanche? Le jeune Mathis, 15 ans, poignardé à mort après une bagarre avec un jeune voisin. L'adolescent et sa mère ont été mis en examen dans la soirée. Et puis le joli mois de mai débute demain avec les clochettes du Muguet, des clochettes sous haute surveillance. Vous allez l'entendre. Le journal de 6h30. Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Pas de portable avant 15 ans. Recommandation du rapport sur les écrans commandé par Emmanuel Macron en janvier dernier et publié aujourd'hui. Des écrans qui font des ravages sur le développement et le comportement des plus jeunes et dont certains parents ont déjà décidé de les préserver. Dans le nord de Rennes, ils ont même signé un pacte en ligne. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul.
Il est demandeur, il rentre à la maison, il faut faire comme les copains. Enfin, pour l'instant, on craque pas. Heureusement qu'il fait du sport à côté, en fait.
Sur ce cours de tennis, devant le match de leurs ados, ces trois parents tombent d'accord. Leur fournir un portable, oui, mais le plus tard possible.
Bien sûr, ce sera peut-être un extraterrestre, mais en tout cas, là, nous, notre objectif, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible sans téléphone. Quand j'étais enfant, on n'avait pas accès à la téléphonie. Alors, mon fils, Maxime, il connaît nos numéros de téléphone. Et si on n'est pas là, il nous appellera sur le téléphone fixe. Nous, on s'est tenus avec la maman de mon petit garçon.
Oui, moi, je suis d'accord, d'autant plus que je suis enseignante. Donc, je vois les ravages du téléphone sur les élèves. Plus tard, il aura un portable. Mon fils, mieux je m'en porterai.
Ils ont donc signé un pacte, mis en ligne par Olivier Leport, de repousser le smartphone à l'entrée en lycée.
Beaucoup de parents font le choix de donner un smartphone à leur enfant par résultat de cette pression sociale. C'est subi. Nous, on veut simplement un vrai choix et c'est l'objet de notre pacte. C'est de se dire, pour que mon enfant n'ait pas de smartphone, il faut que ses copains n'en ont pas non plus.
Un mimétisme à l'envers, mais ce papa rappelle qu'il fonctionne déjà ailleurs, comme en Espagne.
Sandrine Prioul, autre recommandation de cette étude menée par 10 experts et publiée aujourd'hui. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans, certains même comme Snapchat devraient attendre 18 ans et pas d'écran du tout pour les tout petits. C'est d'ailleurs aussi ce que préconise le comité d'orientation des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Parmi ses 350 propositions remises au ministère de la Santé, il appelle à ce que la loi interdise les écrans avant 3 ans.
6h32 sur Europe 1, l'appel de François-Xavier Bellamy dimanche a été entendu sur Europe 1. La région Île-de-France suspend donc ses subventions à Sciences Po Paris.
Après le blocage de l'école par des manifestants pro-palestiniens la semaine dernière, la présidente de la région, Valérie Pécresse, estime que la sérénité et la sécurité ne sont pas garanties dans l'établissement. Écoutez les explications d'Otman Nasrou, il est vice-président de la région Île-de-France.
Il y a une dérive idéologique, il y a une minorité radicalisée qui a bloqué un établissement, parfois avec des propos totalement inacceptables. Ce que nous avons constaté, c'est que la direction de Sciences Po a été totalement absente, a laissé faire, a tout cédé à cette minorité, qui était d'ailleurs instrumentalisée par la France insoumise. Et la direction de Sciences Po s'est montrée incapable de tenir le discours de fermeté qui aurait dû prévaloir. Face à cette réalité-là, eh bien nous ne céderons pas sur des principes aussi élémentaires. Et c'est la raison pour laquelle nous suspendons le financement de la région à Sciences Po. Il y avait 1 million d'euros prévus pour Sciences Po. Nous suspendons pour l'instant le versement de ce million d'euros en attendant que la fermeté revienne et qu'on cesse de reculer dans notre pays. J'espère que nous pourrons refinancer Sciences Po une fois que cette dérive sera stoppée pour de bon.
Otman Nasrou au micro Europe 1 de Guillaume Dominguez. Réaction ce matin dans Le Monde de l'administrateur provisoire de l'établissement Jean Basser. L'action de quelques dizaines de personnes ne doit pas pénaliser une institution tout entière, estime-t-il, assumant avoir choisi, je cite, la voie étroite de la négociation avec les étudiants mobilisés.
Des étudiants soutenus par la France insoumise. Deux de ces militantes vont d'ailleurs être entendues par la justice aujourd'hui.
Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, et Rima Hassan, qui figure sur la liste du parti pour les européennes. Toutes deux devront répondre à des accusations d'apologie du terrorisme après un communiqué du groupe LFI publié le 7 octobre dernier et qui tentait de justifier les massacres du Hamas en Israël. Un rassemblement pour les soutenir est prévu à 8h30 près du tribunal de Paris et des locaux de la police judiciaire.
6h34 sur Europe 1 à Châteauroux. L'adolescent de 15 ans, auteur présumé des coups de couteau qui ont causé la mort de Matisse, a été mis en examen pour meurtre hier soir et placé en détention provisoire.
Sa mère également, mise en examen du chef de violence volontaire pour avoir asséné des gifles à la victime. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Alexis de la Fléchère, on en sait désormais plus sur les circonstances de ce drame.
Oui, selon le parquet de Bourges qui reprend l'enquête, une première bagarre a éclaté entre les deux mineurs samedi dernier lors d'une battle de rap freestyle. Le mis en cause serait ensuite parti chercher un couteau dans un local. Humilié, dit-il, ça a été sa défense en garde à vue. Il serait passé à l'acte après avoir reçu un coup de poing et subi des insultes de la part de Matisse faisant référence à ses origines afghanes. Excédé, il revient alors poignardé dans le dos et au thorax le jeune garçon qui se trouvait à l'arrière d'une voiture épave avec d'autres amis. La mère du suspect présente aussi sur place aurait, elle, giflé Matisse avant de prendre la fuite. La victime décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Enfin, on sait aussi que l'assaillant était connu des services de police pour vol aggravé avec violence et qu'il avait été placé une semaine plus tôt sous contrôle judiciaire.
Alexis de la Fléchère notait qu'une marche blanche pour Matisse aura lieu samedi à Châteauroux.
6h36, c'est demain le 1er mai, le jour du muguet, Fanny.
Oui, des fleurs très convoitées, pas seulement parce qu'elles portent bonheur ou que c'est la tradition, hein, dans les champs. Les vols se multiplient, c'est un stress quotidien pour les producteurs qui redoublent de vigilance à l'approche du 1er mai. Comme Bruno Aubert, il est propriétaire des Serres Fleuries près de Dunkerque. Reportage Lionel Gougelot.
C'est un trésor sous haute surveillance. 140 000 pieds de muguet cultivés sous serre ici depuis 8 semaines par Bruno Aubert. Une production qu'il a fallu sécuriser pour éviter les cambriolages.
On fait très attention à tout ce qui part, tout ce qui rentre, qui arrive, pourquoi, pour quelle chose. Tout est fermé, on a des caméras de surveillance. Elles sont à l'extérieur, dans les établissements. On évite de dire où on plante du muguet. Et c'est surtout les derniers moments, comme maintenant.
Car à l'approche du 1er mai, il a même fallu parfois renforcer le dispositif.
On avait vu qu'on allait être cambriolé. On avait des gens la journée qui tournaient. On a pris des vigiles pour une nuit. C'était incroyable quand même.
Un muguet volé, objet de trafic souvent juteux.
Compte tenu du prix et du peu d'encombrement, c'est facile à prendre une centaine de pots. Ça, c'est pas un problème. Mais une centaine de pots à 5-6 euros minimum, ça vous fait tout de suite 600 euros. C'est pour ça que c'est très convoité.
Alors méfiance, prévient le producteur, un muguet en pot vendu sur le trottoir peut être d'origine suspecte.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète des pots de muguet avec une collerette, etc. et qu'on le vende sur la rue. C'est qu'on l'a soit volé, soit acheté dans un marché particulier.
D'où l'importance, selon Bruno Aubert, de mieux contrôler la vente à la sauvette. À Lefrancouc, Lionel Gougelot, Europe 1.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal de 6h30 sur Europe 1. Bienvenue à tous, il est 6h37.
À 7h15 sur Europe 1, vous allez retrouver les initiatives positives de Jean Z. Et Jean nous parlera de la première usine au monde à recycler les barquettes alimentaires en plastique. Et figurez-vous qu'elle se trouve en Meurthe-et-Moselle. Dans un instant, votre interview éco, Alexandre Lemaire.
Plus de 10 millions de Français ont un PER, un plan épargne retraite. C'est un record, c'est peut-être aussi le signe d'une inquiétude pour les pensions de retraite. Tout savoir sur ce produit d'épargne dans un instant avec Ludovic Kachlikovitz du portail retraite.com. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est... ». Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Europe 1.
Il est 6h20, 7h20 sur Europe 1, mardi 30 avril. Bon réveil, chers auditeurs, et bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Alexandre, bonjour Emeline, bonjour chers auditeurs.
À la une d'Europe 1 matin, Dimitri, à partir de 7h.
On va parler des écrans ce matin, parce que les experts de la commission écran vont remettre leur rapport au gouvernement aujourd'hui. Je pense qu'on devrait tous lire ce rapport qui nous parle de l'hyperconnexion subie des enfants, des stratégies de captation de leur attention, des conséquences que ça a sur leur sommeil, sur leur santé, parce que les écrans, c'est de la sédentarité, c'est le manque, c'est peu d'activité physique, ce sont des myopies précoces, une prédisposition aux addictions aussi, enfin, on voit les ravages, les réseaux sociaux aussi, gros facteurs de risque de dépression ou d'anxiété chez les jeunes qui sont les plus vulnérables. Bon, le tableau est terrible et les auteurs du rapport considèrent, je les cite, hein, qu'il en va de l'avenir de notre société, de notre civilisation. Alors, il y a quand même un point rassurant dans le rapport, on va voir ça ce matin, c'est que les experts estiment que les écrans ne sont pas à l'origine de troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire que ça n'affecte pas définitivement votre cerveau. Concrètement, vous réduisez la dose d'écran pour les enfants, déjà ça va beaucoup mieux. Mais nous, les adultes, c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que nous leur montrons les exemples? Est-ce que vous savez combien de temps vous passez sur votre téléphone par semaine, Alexandre?
Trop.
Ouais, trop. Bah moi, j'ai regardé, moi je suis à 5 heures. Je suis à 5 heures par semaine. Ça me paraît déjà énorme. Et on voit que les écrans, c'est du sucre pour le cerveau.
Mais bien sûr.
Et ce sont les plus grands esprits de notre temps qui les ont conçus avec un génie incontestable pour nous réengager en permanence, pour monétiser tout ce temps perdu, ou plutôt ce temps capté. On va en parler ce matin sur Europe 1.
À tout à l'heure, Dimitri Pavlenko.
L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Europe 1, il est 6h40.
On parle ce matin d'un produit d'épargne de plus en plus populaire, le plan épargne retraite. Le PER compte plus de 10 millions de titulaires désormais. Alors la barre a été franchie à la fin de l'année dernière pour plus de 100 milliards d'euros d'encours. Bercy voit un record qui dépasse même ses propres attentes.
Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre Lemaire. Il s'agit de Ludovic Herschlikowitz, fondateur du portail retraite.com.
Bonjour Ludovic Herschlikowitz.
Bonjour.
Première question que j'ai envie de vous poser, quelle est votre explication à ce succès du plan épargne retraite chez les Français?
C'est surtout qu'il n'y avait pas grand-chose qui était clair avant. C'est-à-dire qu'on avait plein de produits, on avait le PERP, on avait le COREM, on avait l'article 83, on avait le Madelin pour les indépendants, et chacun des produits avait ses propres règles. Alors je vous donne peut-être un ou deux exemples. Sur un Madelin, quand vous commenciez à mettre de l'argent, vous étiez obligé jusque tout le temps de mettre de l'argent tous les mois, que la boîte marche bien ou marche pas bien. Oui. Sur le PERP, c'était autre chose, on ne pouvait pas sortir en capital, c'est-à-dire que vous mettiez de l'argent de côté, vous ne pouviez pas récupérer tout de suite l'intégralité de votre capital, il fallait sortir ce qu'on appelle en rente. Et donc tous ces produits qui étaient un peu pas très simples sont devenus tout simples avec un seul produit qui s'appelle maintenant le PER et sur lesquels les assureurs et le gouvernement étaient assez intelligents pour enlever tout ce qui n'allait pas.
Donc on a unifié les différents systèmes.
Exactement, pour en faire un produit plus simple.
Les vertus de la simplification, si je comprends bien, elle est en marche du point de vue du PER.
Absolument, et certains points tels que ne pas pouvoir sortir ce qu'on appelle en capital, c'est-à-dire vous mettiez 10 000 euros de côté pendant toute votre vie, à la fin vous vous obligez à sortir 150 euros par mois, c'est complètement dingue. Mmh. Aujourd'hui, on peut sortir en capital, en rente, donc la flexibilité, petit 1, la simplification, et puis la réforme des retraites qui a rendu un peu exogène le côté est-ce que j'aurai une retraite, est-ce que j'en aurai pas. Et donc, tous ces éléments font que aujourd'hui, c'est une réussite. Alors, sachant que c'est une réussite, mais il y a eu aussi le transfert de tous ces produits oui. qui ont été ramenés. Donc, dans ces 100 milliards, on a aussi le transfert des pertes, des matelins, un effet mécanique qui s'est fait. Mais malgré tout, on a un produit qui plaît, qui est simple et qui, du coup, permet aux Français de se dire aujourd'hui, je dois mettre de l'argent de côté. Quels sont les produits disponibles? Donc, on a bien évidemment le PER et l'assurance-vie qui est aussi, malgré tout, un produit à compléter avec le PER.
Bien, beaucoup d'avantages combinés que vous venez de citer, Ludovic Herschlikowitz. Il y a quand même des risques, en tout cas des inconvénients à détenir un PER. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on place.
Le principe d'un produit d'épargne retraite, c'est vous forcer quand même à mettre de l'argent de côté. Donc, le principe essentiel pour le PER, c'est de vous forcer à mettre de l'argent. Sauf que avant, vous étiez obligé de continuer à mettre de l'argent tous les mois. Aujourd'hui, la flexibilité du PER fait que vous pouvez mettre 100 euros par mois, puis passer à 1000 euros par mois, et puis après, vous avez une galère, vous allez réduire et arrêter, et repartir l'année prochaine. Donc, vous avez une vraie flexibilité sur les versements que vous allez mettre. Donc, effectivement, c'est un peu contraignant parce que ça vous oblige à mettre de l'argent de côté, mais à côté de ça, vous avez une flexibilité de mettre ou de ne ppas mettre dans les moments durs de la vie.
Il faut bien rappeler que les sommes versées sur le PER ne sont pas récupérables avant la retraite. Hein.
Exactement.
Sauf exception.
Exactement. Et c'est là où, pareil, le gouvernement a été assez malin pour mettre des règles assez larges. Donc, accident de la vie, clair. Donc, on ne va pas tous les citer, mais vous avez une galère ou fin de droit au chômage, vous pouvez récupérer
fin de droit au chômage,
fonds.
Oui.
Voilà. Et en cas d'achat de la résidence principale, donc les gros achats que vous pouvez faire dans votre vie, vous pouvez débloquer si vous achetez une résidence principale.
Ça, c'est quand même un véritable avantage de
pouvoir compter sur... En tout cas, psychologiquement, c'est un vrai biais pour se dire, je vais mettre de l'argent et en cas de coup dur ou en cas d'achat d'une résidence principale qui reste malgré tout, il faut le rappeler, la meilleure solution pour préparer sa retraite. C'est-à-dire que si à la retraite, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'allez pas bien vivre, même avec une petite retraite ou une grosse retraite. Si vous êtes propriétaire, même avec une retraite de 800 ou 1000 euros par mois, ce qui est une petite retraite, vous en sortez. Locataire, vous survivez. Donc c'est très important de rappeler ça.
Autre inconvénient, la fiscalité à la sortie du PER, hein, qui peut amoindrir le rendement net du plan épargne retraite, Ludovic Hachlikowicz.
Alors oui, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais effectivement...
C'est quelque chose à avoir en tête quand même.
Voilà, alors en général, quand vous gagnez un des gros avantages du PER, c'est vous gagnez à l'entrée, souvent, fiscalement. C'est-à-dire que quand vous allez mettre 10 000 euros et que vous êtes imposé sur un TMI de 30%, bah, y a 3 000 euros que vous allez récupérer. Donc vous... mécaniquement, ce que vous gagnez à l'entrée, vous allez payer à la sortie. Oui. Sauf que, généralement, à la retraite, vous gagnez un peu moins, donc vous êtes sur une tranche d'imposition inférieure, et donc du coup, bah, vous allez payer un petit peu moins d'impôts à la sortie que ce que vous avez payé à l'entrée.
Quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, on voit un décollage très récent du nombre de titulaires d'un plan épargne retraite. 2022, 7 millions de Français. 2023, on atteint 10 millions. Est-ce que la réforme des retraites portée par le gouvernement a pu jouer, Ludovic Hachlikowicz, sur cette vague d'épargne?
C'est évident, on a quand même une réforme de retraite qui a été dure, qui est passée au forceps, donc forcément. Et c'est à la fois une chose qui s'explique là-dessus, et c'est presque une bonne chose. C'est-à-dire que moi, ça fait 5 ans que je suis sur retraite.com, 5 ans que je dis aux gens, préparez tôt votre retraite. Et le côté de la réforme des retraites a rendu exogène ce côté en disant, bah, à un moment, il faut que je pense à ma retraite. On n'y pense pas toujours. Et donc, effectivement, l'étude qui a été publiée hier est assez intéressante parce qu'elle montre que même les jeunes, qui on se disait qu'ils n'allaient pas trop penser à la retraite, bah, ils y pensent.
Donc, c'est une anxiété qui s'exprime.
Mais c'est une anxiété positive, pour une
positive,
fois.
Positive, mais qui s'exprime, et vous venez de le dire, c'est notable, de plus en plus jeune.
Exactement.
Ce qui n'était pas le cas auparavant.
Donc, il y a toujours une petite brique dans la tête maintenant qui se dit, bah, est-ce que ma retraite, j'en aurai une? Alors, évidemment, oui, on est quand même dans un pays stable où on aura des retraites. Et globalement, malgré toutes les critiques, on a quand même des retraites qui sont très correctes par rapport au reste du monde, en sachant que quand on a la retraite, on a en plus la santé gratuite, ce qui est complètement oublié dans tous les pays. On a quand même la chance en France d'avoir une santé gratuite. Donc, cette retraite, qui mériterait d'être bien évidemment toujours supérieure, elle est quand même pas anodine par rapport au reste des pays du monde. Et voilà, donc c'est bien d'y penser très tôt et c'est bien d'y penser le plus tôt possible.
Le PER existe aussi et peut-être proposé dans certaines entreprises, Ludovic Hachlikowicz. Il se trouve qu'un grand nombre de contrats d'épargne retraite ne sont pas liquidés par certains salariés qui en sont pourtant titulaires après 65 ans. Ça représente quand même 5,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Vous nous dites quoi ce matin? Attention
Attention, vous avez le droit à la chance d'avoir un petit loto. Allez sur Info Retraite, vérifiez si vous avez un contrat.
Voilà, mais on peut l'avoir oublié.
Absolument, on oublie que en 1998, on a travaillé, on a ouvert un PE et on a peut-être 5 000 euros dessus.
On a de l'argent et on ne le sait pas.
Voilà, et on le sait pas. Donc, aller sur le site Info Retraite, d'ailleurs, c'est une vraie galère, même pour les assureurs, parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ne peuvent pas utiliser, qu'ils doivent placer et sur lesquels ils n'arrivent pas à retrouver les titulaires. Donc, à la fois, pour le titulaire, c'est très bien de se dire un matin, je vais vérifier et ça se trouve, j'ai 2 000, 3 000, 15 000, 20 000 euros sur un PE. Et puis voilà, pour l'assureur, il sera content de le débloquer et de vous faire un chèque là-dessus.
Inforetraite.fr.com, là, on trouve très facilement les informations.
Normalement, vous trouvez l'information ce qu'on appelle les contrats en déshérence.
Mais ben voilà, on sait tout ce qu'il nous reste à faire. Merci Ludovic Hachlikowicz, fondateur du portail retraite.com ce matin sur Europe 1. Merci à vous.
Merci. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Europe 1, il est 6h47. Bon réveil, bon début de matinée avec nous dans un instant. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1, Alexandre.
Nous serons aux États-Unis. La presse américaine attend la réponse de la Cour suprême à cette question. Les villes peuvent-elles punir les SDF pour le simple fait de dormir dans la rue ?
Europe 1, bonjour, les initiatives positives.
Bonjour Jean Zed.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Ce matin, on parle de la première usine au monde à recycler les barquettes en plastique.
Eh oui, on parle ce matin de ces fameuses barquettes alimentaires en plastique qui finissent habituellement à l'incinérateur, qu'il s'agisse de barquettes de jambon ou de salade piémontaise, tous les packagings qui protègent un produit de la lumière, de l'humidité, de l'oxygène. Eh bien, ils sont composés de différentes couches de matière, souvent plastique, indispensables à la conservation des produits, mais cauchemardesques à recycler parce qu'ils sont composés de plusieurs couches justement, même trié trier et placer dans le fameux bac jaune du tri sélectif. Seuls 7,5% des pots de yaourt et autres sacs de chips sont recyclés, chiffre de 2020.
Bien, et la solution se trouve peut-être dans l'Est de la France.
Peut-être recycler des déchets difficiles à recycler, c'est l'objectif de l'usine Carbios à Longlaville en Meurthe-et-Moselle, à deux pas de la Belgique et du Luxembourg, usine dont on vient de poser la première pierre, c'est tout frais. L'investissement est à la hauteur de la promesse, c'est 230 millions d'euros en partie financés par l'État et la région Grand Est. Carbios, qui est un acteur reconnu du recyclage dans les sons de Clermont-Ferrand et leur usine de Longlaville, devrait pouvoir fonctionner à plein régime en 2026. Alors Carbios qui affirme qu'il s'agit donc de cette première usine au monde de ce type. De quoi parle-t-on ? Eh bien d'une technologie qui permettrait de recycler des produits dont même les recycleurs ne veulent plus ou ne veulent pas. On trouve quoi dans cette liste ? Nos fameuses barquettes de jambon, des flacons et même d'anciens habits. Propres ou sales, ça n'a absolument aucune importance.
Elle fonctionne comment cette technologie ?
Eh bien, il s'agit d'une enzyme. Une enzyme, c'est une protéine capable de catalyser, d'accélérer une réaction chimique dans les organismes vivants. En gros, c'est un ouvrier très spécialisé qui peut assembler ou désassembler, et c'est ce que l'enzyme Carbios réalise. Elle est en capacité, lorsqu'elle est mélangée à des déchets, comme des barquettes, de séparer ces différents composants et de mettre de côté le polyéthylène téréphtalate. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, sûrement, mais il connaît tout le monde. Il est partout, ce fameux PET.
Ah, le PET, logo PET qu'on voit sur les emballages.
Oui. Exactement, oui. Le plastique le plus utilisé pour les emballages et l'embouteillage depuis les années 90, il est partout. Il faut environ 1 kg d'enzymes pour traiter une tonne de PET dans cette usine d'un nouveau genre et au bout d'une heure, le boulot est fait.
Polyéthylène téréphtalate.
Très bien dit.
Ouais, c'est un vrai exercice de diction. Bon, alors, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est tout ?
Bah, pas tout à fait. Il faut ensuite filtrer quand même et purifier ce PET entièrement biorecyclé. Ce processus est capable de sortir 90% de matériaux de notre tonne de déchets préparés à un taux plutôt élevé. Alors, le début de la construction de cette usine a été salué sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, par Emmanuel Macron, qualifiant le procédé de révolution technologique. Bah, à suivre pour vérifier si ces belles promesses de PET récupérés seront réalisés à l'échelle industrielle cette fois. Ce sera donc dans 2 ans.
Avec les petits bras musclés, les enzymes.
Ouais, les enzymes, ouais, c'est exactement.
Très costaud.
Les initiatives positives. À demain, Jean Z, sur Europe 1.
C'était Initiative Positive avec General IPM et Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bon réveil à tous avec Europe 1, 7h-10, le journal permanent, Fanny Marceau.
Une mobilisation se prépare devant le tribunal de Paris et près des locaux de la police judiciaire. Elle doit démarrer à 8h30 pour soutenir les insoumises Rima Hassan et Mathilde Panot, convoquées par la police aujourd'hui, afin de répondre d'accusations d'apologie du terrorisme après un communiqué du groupe LFI publié le 7 octobre dernier. Il tentait de justifier les massacres du Hamas en Israël. Gérard Depardieu, jugé en octobre prochain, annonce du parquet après la levée de sa garde à vue. La star de 75 ans devra répondre des plaintes de 3 femmes qu'il accuse d'agressions sexuelles commises entre 2014 et 2021. À Châteauroux, un adolescent de 15 ans mis en examen pour le meurtre du jeune Matisse est placé en détention provisoire hier soir. Sa mère également mise en examen du chef de violence volontaire pour avoir asséné des gifles à la victime. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Le rapport sur les effets néfaste des écrans sur les plus jeunes publié aujourd'hui. Commandé en janvier par Emmanuel Macron, il préconise d'éviter les écrans avant 3 ans, les portables avant 11 ans, les réseaux sociaux avant 15 ans. Et puis le roi Charles III reprend aujourd'hui ses activités. Ses médecins estiment que les premiers résultats de son traitement contre le cancer sont suffisamment satisfaisants.
Merci Fanny Marceau.
Europe 1, il est 6h52. Vous restez avec nous à suivre la revue de presse internationale. Bon matin sur Europe 1.
Europe 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, il est 6h53.
La revue de presse internationale, nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Los Angeles. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ?
Alors la presse américaine attend une décision de la Cour suprême sur les sans-abri. L'agence AP explique que les juges de la Cour vont devoir trancher. Les villes peuvent-elles punir les sans-domicile s'ils dorment dehors ? Le New York Times rappelle que tout est parti de la petite ville de Grants Pass dans l'Oregon, qui a interdit aux sans-abri de dormir dans un parc de la ville. Le quotidien relate qu'une SDF a porté plainte pour traitement cruel et inhabituel et atteinte à ses droits constitutionnels. Mais d'après le Wall Street Journal, la question se pose également dans d'autres villes, conservatrices comme progressistes. Le Los Angeles Times cite l'avocat de la ville de Los Angeles qui estime que pour pouvoir trouver des solutions au problème du sans-abrisme, il faut avoir toute latitude d'agir au cas par cas. Le quotidien reprend également un rapport du département du logement. Sur 10 personnes vivant dehors, 6 sont en Californie. NPR rappelle qu'aux États-Unis, environ 250 000 personnes vivent dans des parcs, dans la rue ou dans leur voiture.
Nous sommes maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, à Athènes pour Europe 1. Les gros titres des journaux grecs ce matin.
6 ans après l'incendie de Mati au nord-est de la capitale qui a fait plus de 100 morts, le tribunal correctionnel d'Athènes a rendu son verdict, écrit le quotidien Ika Themerini. 6 personnes, dont l'ancien chef des pompiers, ont notamment été reconnues coupables d'homicides involontaires, précise le journal. Les responsables sortis libres de l'audience ont été condamnés jusqu'à 5 ans de prison avec sursis et à 40 000 euros d'amende, souligne le quotidien Efsin. Les 15 autres prévenus, parmi lesquels des élus locaux, ont été relaxés. Cet incendie a traumatisé tout le pays et l'annonce du verdict a provoqué l'indignation des survivants et des proches de victimes présents dans le tribunal. Certains ont éclaté en sanglots, rapporte le journal IAVI. Selon le quotidien Ika Themerini, des familles prévoient de faire appel de cette décision.
Nous sommes enfin en Turquie ce matin avec la correspondante d'Europe 1, Jeanne Joulot. Un chiffre ce matin frappe les médias turcs.
Une inflation de 95% en un an pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, soit un chiffre bien supérieur à l'inflation générale de 68%. C'est ce qui a poussé l'économiste Iris Gibré à lancer sur les réseaux sociaux un appel au boycott. Selon elle, les restaurateurs profiteraient d'un mouvement de hausse générale des prix pour augmenter leurs marges de manière démesurée, explique T24. Cette affirmation a été démentie dans On Haber par Ramazan Bingöl. Le président de l'association des restaurants affirme ne pas pouvoir faire autrement face à l'augmentation des coûts. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont appelé à condamner le gouvernement pour sa politique économique plutôt que les restaurateurs. D'après Sunmur, le mouvement a été peu suivi ce week-end à Istanbul et Ankara, mais a bien fonctionné dans le reste de la Turquie.
Merci Jeanne Joulot, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Europe 1, il est 6h56.
Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour Blin Roche. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs. Est-ce qu'il faut interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans ? Le téléphone portable, et j'ai même pas dit le smartphone, on parle d'un téléphone sans internet, avant 11 ans. Les réseaux sociaux, pas avant 15 ans. Voilà ce que préconise la commission écran qui rend aujourd'hui son rapport au gouvernement. Les auteurs parlent d'une question de civilisation. Alors visiblement, ils ont été impressionnés, pour ne pas dire choqués, parce qu'ils ont découvert sur toute l'intelligence qui est mise au service de la captation de l'attention de nos enfants par les industriels cette économie de l'attention qui tourne autour des écrans. Bon, quand on sait que les 7-19 ans passent 35 heures par semaine en moyenne devant les écrans, c'est une semaine de travail contre une heure de lecture. Voilà, c'est quand même ça, c'est un vrai sujet. Mais la question, c'est interdire les écrans. Les policiers dans cette affaire seraient donc les parents. On va en parler tout à l'heure sur Europe 1 parce que ce sujet nous questionne. 8h10 avec Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk. On viendra avec lui aussi sur le drame de Châteauroux qui pose là aussi la question de la justice des mineurs. Europe 1 en immersion également ce matin à Sciences Po Paris, secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations pro-palestiniennes. Alors, qui sont-ils ces manifestants qui brandissent des mains rouges, qui appellent au boycott d'Israël ? Est-ce qu'il y a vraiment que des étudiants dans les blocages ? Il est permis d'en douter. On verra cela dans un quart d'heure avec la première invitée d'Europe 1 Matin, la journaliste Pauline Condomine. Elle a retrouvé pas mal de visages qu'elle a croisés pendant son enquête pour le magazine Livre Noir, consacré au groupe pro-Hamas. On parlera aussi du Paris Saint-Germain puisque c'est demain la demi-finale aller face au Borussia Dortmund. La pression monte chez les Parisiens et chez les supporters. On verra ça. Ambline Alexandre, on vous remercie. On vous dit à demain.
À demain.
Repos.
À demain.
Et rendez-vous 5h pour le coup d'envoi d'Europe 1. Bonjour. Le temps, Anissa Adel, on a du temps, on en a justement pour parler de la météo.
Oui, et on va en avoir besoin.
À quoi ça va ressembler? Il y a beaucoup de pluie attendue aujourd'hui.
Oui, il y a des averses encore aujourd'hui sur une large bande qui se situe entre les Hauts-de-France et le Languedoc-Roussillon. Des pluies très fréquentes en passant par la région parisienne, le Loiret, le Nivernais, l'Auvergne, le Limousin. Dans toutes ces régions, c'est gris, c'est couvert et c'est pluvieux. Il y a tout de même des éclaircies ce matin qui se situent à l'arrière de cette perturbation, de la Basse-Normandie jusqu'au Pays Basque. Alors là, on a des éclaircies, c'est très agréable. C'est une matinée très agréable sur l'ouest du pays, sauf, il y a un bémol, sur le Finistère, où là, c'est couvert avec des pluies très soutenues ce matin et du vent, un vent du sud jusqu'à 70 km/h. Autre partie agréable ce matin, c'est la façade est de l'Alsace aux Alpes. Mais là aussi, ça va se gâter puisque cet après-midi, des orages arrivent sur la Bourgogne et le Lyonnais, des orages qui pourront être localement forts avec de la grêle attendue. Les orages pourraient remonter même jusqu'au sud de la région parisienne. Donc c'est une journée qui sera assez mouvementée et tous les ingrédients sont là, hein. Les éclaircies, les averses, les orages et les pluies soutenues. Pluies soutenues sur les Cévennes et sur le Finistère. Retenez ces deux informations. Côté température, il fait doux. Ce matin, on a 5 à 16 degrés du nord au sud et cet après-midi, 25 degrés 25. À Strasbourg. Oh là là. Et c'est agréable. 24 à Belfort, 22 à Nice, 20 degrés à Paris, 16 à Boulogne-sur-Mer et Montpellier, 13 à Brest. Vous savez que Météo France a déjà fait ses prévisions climatiques, qui ne sont pas des prévisions météo, c'est-à-dire que c'est une vision